7 milliards de voisins, on est ensemble.
Tout le monde est voisin.
7 milliards de voisins, Charlie Dupiot.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins. Connaissez-vous les chênes, les dérailleurs, les pignons, les jantes? Non, ça ne vous dit rien? Eh bien, vous feriez mieux de vous y mettre, de vous laisser tenter vous aussi par le vélo. Car le vélo a investi les villes des pays du Nord. On lui prête tous les miracles. Moins cher que la voiture, plus agréable que les transports en commun et parfois même plus rapide que la voiture bloquée dans les embouteillages, sans compter que lui ne pollue pas. Alors que le Tour du Faso, le plus ancien tour cycliste du continent africain, s'était lancé vendredi pour sa 30e édition, nous parlons du vélo qui aujourd'hui n'enthousiasme plus seulement les passionnés de cyclisme dans sa version sportive. Alors sommes-nous en train d'assister à une vélorution, une révolution du vélo? Pourquoi un tel succès de ce moyen de transport? Quels avantages et puis quels inconvénients aussi? Nous verrons que le vélo peut servir même à produire de l'énergie et à amener le cinéma dans les campagnes, dans des pays où l'accès à l'électricité n'est pas toujours aisé. Et c'est le défi que vous vous êtes fixé. Yoro Diallo, bonjour.
Bonjour Charlie.
Vous êtes journaliste, guide, membre de l'association Cinécyclo Sénégal. Vous avez participé à un tour du Sénégal à vélo pour notamment promouvoir des initiatives environnementales via la diffusion de courts films. Avec nous également autour de ce plateau, Frédéric Linger, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes consultant en transition des territoires et puis vous êtes venu jusqu'à nos studios avec votre vélo pliant. Et puis Olivier Schneider, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes président de la Fédération des usagers de la bicyclette en France et puis vous aussi. Si vous êtes venu à vélo. Et vous, les voisins, les voisines, pédalez-vous pour aller travailler, par exemple, ou pour vous promener, pour vous rendre sur le marché, faire vos courses? À quoi vous sert votre vélo, si vous en avez un? Comment voit-on le vélo chez vous? Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. 33 1 84 22 71 71. Et on vous attend aussi, toujours plus nombreux, sur notre page Facebook et notre compte Twitter. Et vous nous écrivez déjà sur Facebook, les voisins, le sujet du jour vous inspire. Kevin nous écrit depuis Lubumbashi, ici en RDC, le vélo n'est même pas reconnu par le code de la route. Si tu te promènes à vélo, les chauffeurs t'insultent. Je vous lis également le message d'Amat de N'Djamena. Au Tchad, il faut vivre à la campagne ou être un enfant pour faire du vélo. Pour un citadin, c'est la honte. Bethléem nous dit, lui, à Kinshasa, vu le trafic, utiliser le vélo comme moyen de transport serait du suicide. Broulaï nous écrit depuis Bamako. Au Mali, si on te voit pédaler, on te classe parmi les pauvres. Personnellement, après mon baccalauréat, j'ai abandonné le vélo car je croisais souvent ma petite amie quand j'étais à vélo et je devais me cacher. Alors le vélo est difficile à assumer. Garba Moussa nous écrit, lui, depuis Niamey au Niger. J'utilise, moi, le vélo pour diminuer mon stress.
Attention, monsieur les coureurs, prêt pour le départ.
La flamme du sommet à 1912 mètres, terrible ventouse.
En vérité, je te le dis, camarade, la révolution passera par le vélo.
Ma bicyclette, ma petite
aide. Si tu ne veux pas me faire de peine, viens donc balader. Nous irons voir passer tout de France.
Cette fois-ci, la deuxième édition du Grand Prix Soutellement Malitel, sponsor officiel de la Fédération Malienne de Cyclisme, qui a été couru sur le boulevard de l'Indépendance. À l'arrivée, c'est Boura Mayara qui monte sur la plus haute marche du podium.
C'est exprès que vous avez déchiré votre pneu. Pour venir me voir.
Putain, Raymond, regarde là-bas.
Je le reconnais, c'est Louis Jean Babin.
Sur le vélo, chacun veut être le plus costaud.
Le petit beau vélo derrière nous, il crie quelque chose.
Ça n'est pas la peine de prendre chaud sous ton maillot.
Le vélo est un objet essentiel au moment d'un mariage. Par exemple, si je tombe malade, ma femme pourra m'emmener à l'hôpital à vélo.
Les rois de la petite reine est neuf.
On peut pédaler, remonter les bouchons, avoir l'impression de faire du bien à la planète car on ne pollue pas. Mais est-ce que la bicyclette est vraiment bonne pour la santé?
Monsieur le coureur, avancez sur la ligne s'il vous plaît.
Mix réalisé par Sophie Janin, le vélo véhicule de demain. Vous avez emprunté votre bicyclette Yoro Diallo pour parcourir le Sénégal pour l'association dont vous êtes l'un des responsables, Cinécyclo. Vous avez parcouru 3000 km, c'est ça?
Oui.
Où êtes-vous allé au Sénégal?
Bonjour, Charles, l'invité.
Je suis très content d'être invité à RFI Radio France Internationale, en particulier l'émission 7 milliards de voisins. Donc en fait, Cinéciclo, c'est, on va aller à la définition, c'est un cinéma itinérant à vélo, dont le but c'est d'amener le cinéma dans les endroits les plus isolés du Sénégal, donc dans le monde rural.
Vous êtes parti en Casamance,
on
notamment.
On est parti maintenant en Casamance, en Saint-Louis, au Sine-Saloum, bon, à Saint-Louis. Et on est retourné au niveau de Dakar, on a fait Tamba, Kédougou, dans beaucoup de régions du Sénégal. Mais toujours dans des zones isolées qui ne sont pas accès à l'électricité. Donc nous, notre cible, c'était des villages qui ne sont pas accès à l'électricité, pour quand même amener le cinéma, les proposer des solutions, que ce soit en matière d'environnement, en matière d'éducation, et y compris le divertissement.
Avec un vélo un peu spécial. Hein.
Avec un vélo qu'on appelle le vélo magique. En fait, on a un vélo cargo. C'est le vélo qui produit l'électricité. Donc, comment il produit l'électricité? On a un générateur qu'on fixe sur la porte-bagage, qu'on renverse, ça devient une sorte de béquille.
Et il faut pédaler, en fait,
pour produire l'électricité. Donc, on produit l'électricité par nous-mêmes, par l'humain, par l'être humain, qui est lui-même qui produit l'électricité sans pollution. Et on a un hibou. Quand on branche le générateur, il y a un courant qui va vers le hibou. C'est un convertisseur qui transmet, il y a le projecteur, on a l'écran entre deux écorcés, attaché entre deux branches. Du coup, on projette le cinéma dans la.
Et quel film alors vous projetiez?
Du coup, on projetait des films sur l'environnement, sur l'éducation, et y compris sur le divertissement.
Y compris des films de divertissement.
Voilà, y compris des films de divertissement.
En langue locale?
Et en dialecte local. Parce que vu au Sénégal qu'il y a plusieurs dialectes, donc on était obligé de chercher des films en dialecte local qui répond à leurs propres besoins. Par exemple, en matière d'environnement ou en matière du maraîchage. Donc, pour que le message puisse passer. Donc,
et pourquoi utiliser le vélo, alors? Pour produire de l'électricité, on l'a compris. Pour accéder aussi à ces villages?
Bon, pour accéder à ces villages, nous pensons que le vélo, c'est le moyen le plus adéquat pour aller dans ces endroits isolés. Supposons, dans ma région, il y a un village qui se situe en haut des plateaux.
Vous venez de Kédougou, c'est
de
ça, Kédougou, dans le sud-est
au sud-est du pays, du Sénégal. Donc, un village qui s'appelle Afiado, qui se situe au-delà des plateaux. Aucun véhicule ne peut passer. Nous, on a pris notre vélo avec Vincent, l'association Cinéciclo. On a porté le vélo, on a porté le matériel de cinéma. On est monté jusqu'au village.
Il n'y avait pas de piste, en fait.
Il n'y avait pas de piste, en fait. Donc, vous voyez, donc, le village était très content, vraiment. Nous, notre soulagement, c'était que les populations, qu'on projette les films, qu'ils sont contents et vraiment qu'ils tirent des leçons sur ce qu'on fait. Nous, c'était ça notre récompense.
Vous avez réalisé 101 projections précisément.
Voilà, on a fait 101 projections, 3000 km et plus de 12 000 spectateurs.
12 000 spectateurs. C'est un certain nombre. Ouais, Frédéric Linger, vous avez enfourché votre vélo depuis Bangkok jusqu'à Châteaudun, en France, hein, au sud-ouest de Paris. Bilan, 17 pays parcourus, 20 500 km à peu près, hein, pendant un an de trajet. On imagine aussi beaucoup de calories perdues. Pourquoi ce choix du vélo?
Alors, pourquoi ce choix du vélo? Parce que le vélo est un moyen de transport particulièrement paisible, qui est tout à fait adapté à la découverte d'autres cultures et d'autres hommes. C'est d'abord aller à la rencontre des personnes qui composent notre terre, de prendre le temps de les rencontrer, d'échanger avec elles. Et le vélo est un moyen de transport qui est tout à fait paisible, peu agressif, et permet d'établir avec bienveillance un dialogue simplement avec les personnes que l'on rencontre. On n'a pas de vitres, on n'a pas de portières, on n'a pas de toit, on ne transporte pas un millier de kilos d'acier autour de soi, on ne fait pas de bruit, on ne fume pas, voilà. Et donc ça permet d'établir des dialogues beaucoup plus facilement, de s'immerger dans une culture qu'on ne connaît pas mais qu'on est tout prêt à découvrir. Et ce moyen de transport, il est aussi respectueux de ceux vers qui on va, vu que il préserve la planète, il préserve les routes et les villes que l'on rencontre, que l'on découvre. Donc le vélo me paraissait un mode de transport tout à fait adapté.
Et où en est-on de la pratique du vélo dans les pays que vous avez traversés? Par exemple la Thaïlande, où vous êtes parti.
Effectivement, en Thaïlande, c'était déjà un pays où le vélo avait quasiment intégralement disparu. Je parle dans les années 2000 à 2010. On était, je pense, au creux du vélo, comme on a pu l'observer en France dans les années 90 ou comme les Pays-Bas ont pu l'observer dans les années 60 ou 70. Le vélo a été très présent au début du XXe siècle. Il a progressivement disparu. Il a atteint un point bas en fonction des pays, ça diffère de quelques dizaines d'années. Et puis, tout doucement, il rebondit et il reprend une position peut-être d'abord de loisir et ensuite une certaine fonctionnalité associée au vélo pour des transports, pour aller travailler, pour transporter des objets, faire des déménagements, pour intervenir pour les artisans. Donc en Thaïlande, le vélo avait quasiment disparu dans les années 2000. Au Vietnam, c'est arrivé quelques années plus tard, c'était remplacé par les mobylettes. En Chine, on voit qu'aujourd'hui, le vélo est en train de revenir de façon très rapide.
Après avoir disparu
également, mais là, il y a des problèmes de santé publique très forts dans les grandes mégalopoles que sont Pékin, Shanghai et puis l'autre cinquantaine de villes de plus d'un million d'habitants en Chine. Donc c'est très inégal. Ce qui est sûr, c'est que le vélo, après avoir atteint un point bas dans certains pays, revient. Et il reviendra partout où il a disparu.
Olivier Schneider, c'est le cas aussi en France ? On revient en vélo ?
Oui, alors c'est, comme l'a dit mon prédécesseur, on observe la même courbe partout, c'est juste qu'elle est décalée dans le temps et qu'elle est plus ou moins marquée. C'est-à-dire que dans toute l'Europe après-guerre, le vélo a disparu. Le vélo était associé à quelque chose de ringard, puis aussi à la guerre pendant laquelle on était soumis au pétrole qui était rationné, etc. Et donc, on s'était dit que le progrès, c'était l'automobile ou le deux-roues motorisé. Et très vite, on se rend compte que finalement, la ville qui marche bien en voiture, c'est une utopie. C'est-à-dire que le rendement spatial de la voiture est trop faible, même en faisant des villes qui sont couvertes d'autoroutes et qui ressemblent, vu de l'espace, à des parkings comme certaines villes américaines, on se rend compte que ça ne fonctionne pas. Il y a un côté insatiable en espace de l'automobile qui fait qu'à un moment, on se rend compte qu'on est allé trop loin.
D'où les embouteillages.
Et naturellement, on revient en arrière.
Les voisins, les voisines, vous nous appelez si vous vous sentez concerné, si vous êtes accro au vélo, si oui, pourquoi ? Quels avantages voyez-vous à ce moyen de transport ? Et puis, si vous avez honte, comme c'est le cas de certains voisins, de vous montrer à vélo, vous nous expliquez pourquoi au 33 1 84 22 71. 71, 33 1 84 22 71 71.
Tout le monde est voisin.
7 milliards de voisins.
On va faire du boum
sur RFI.
Du show.
Ça m'a appris la fraternité, découvrir d'autres cultures, aller vers l'inconnu.
Tu rates, tu meurs. Mille regrets aux absents. 7 milliards de voisins, c'est maintenant.
Et nous sommes en ligne avec un voisin, justement. Bonjour, Urbain.
Ouais, bonjour, Charlie Dupuyo. Bonjour à tous les voisins et voisines qui nous écoutent en ce moment. Et je salue au passage tous les habitants de Dobara qui vous écoutent en ce moment.
Oui, Dobara, vous êtes à Dobara, au Tchad, au sud de Moundou.
Ah ouais.
On vous écoute, Urbain.
Ok, bon. Moi, j'aime le vélo parce que quand je fréquentais l'université de N'Djamena, j'ai aimé le vélo qui est plus rapide. Je me rends à la fac à vélo, j'emprunte les ruelles qui sont moins fréquentés et qui sont plus faciles à se rendre à l'université que de monter les bus et faire plein et puis attendre beaucoup de temps pour se rendre à l'université. Donc ici, en N'Djamena, c'est mieux d'aller à vélo que de monter les bus et mettre beaucoup de temps.
Et vous n'aviez pas honte alors de circuler à vélo comme certains voisins ?
Non, moi j'ai une habitude ancrée chez moi parce que ici, dans mon village, on a comme moyen de transport principal le vélo. Et c'est une habitude que je ne compte pas abandonner, même si les gens vont me taxer d'un pauvre ou quoi. J'aime le vélo parce que c'est plus sécurisé et plus rapide que les bus et autres.
Merci Urbain pour votre témoignage. Comment vous voulez réagir, Frédéric Linger ? Le vélo, effectivement, ça permet parfois d'aller plus vite.
Alors le vélo, ça dépend du profil des routes effectivement qu'on rencontre, mais généralement ça va beaucoup plus vite. En milieu urbain, c'est indiscutable. Et puis après, ça dépend comment vous raisonnez, quelle vitesse on prend en compte. Quand on prend en compte la vitesse moyenne du vélo, on va dire que c'est à peu près entre 16 et 20 km/h en ville. Et puis la voiture, on va dire que c'est en gros 13-14 km/h en ville, c'est beaucoup plus à la campagne. Par contre, quand vous commencez à raisonner en euros, par exemple, et puis en temps de travail nécessaire pour se payer une voiture, pour payer l'assurance, pour payer l'essence, si vous prenez tout ce temps que vous additionnez au temps de trajet effectivement passé sur le siège de votre auto, vous allez voir que la vitesse moyenne d'une auto, c'est 3 à 4 km heure. C'est moins que la marche. Donc en fait, ça dépend comment on raisonne.
Alors qu'à vélo,
ça dépend
on peut aller à 15 km heure.
Tout à fait, 15, c'est plutôt conservateur. On peut aller maintenant un petit peu plus vite. Il y a des vélos à assistance électrique qui arrivent, qui permettent d'aller encore plus vite. Mais dans des limites raisonnables, hein, vu qu'on est sur du 20-25 km heure.
Yoro Diallo, où en est-on la pratique du vélo au Sénégal?
Au Sénégal, moi je dirais la majeure partie... Tous ceux qui ont vers le sud, que ce soit le sud en Casamance, le sud-est, c'est des gens qui pratiquent beaucoup le vélo. On utilise beaucoup le vélo sur nos activités quotidiennes, pour aller au centre, pour faire beaucoup de choses, pour se promener, on utilise le vélo.
Pour aller travailler ?
Pour aller travailler, que ce soit les élèves ou les paysans, on utilise le vélo. Par exemple, moi, j'ai connu le vélo depuis que, voilà, on a trouvé que mon père il a un vélo. Il m'a dit que mon vélo il est plus vieux que vous. J'ai rencontré aussi un vieux à Kédougou. J'avais même pris une photo avec son vélo. Il a dit, vous voyez cette maison? Il dit à ses enfants, vous avez vu, aujourd'hui, si on vous nourrit, c'est grâce à ce vélo-là. Donc, même si je meurs, vraiment, je vous conseille de me garder ce vélo.
Parce qu'il pouvait travailler.
Parce que ça peut travailler.
C'est, vélo.
Voilà, c'est un vélo qui l'a servi dans sa vie. Donc, lui, il reconnaît la valeur du vélo.
Et vous, vous avez commencé le vélo dès le collège ?
Oui, moi, j'ai commencé le vélo dès le collège, parce qu'à l'école primaire, je n'avais pas un vélo. Dès le collège, je faisais 7 km en allant au collège et retour 7 km. Après, il s'est vu que c'est nécessaire. Il nous faut un vélo pour aller à l'école et revenir. Et voilà, il fallait le garder. C'est comme une femme, quoi. Voilà. Il faut bien s'occuper du vélo. Voilà, c'est précieux.
Combien coûte un vélo au Sénégal ?
Bon, maintenant, les vélos, il y a des vélos... Bon, il y a les vélos de top classe, quoi. Par exemple, les vélos qu'on dit qu'on exporte en Europe sont plus chers. Par exemple, vous allez à 100 000 francs.
Qu'on importe depuis l'Europe.
Voilà, qu'on importe depuis l'Europe, parce que là, c'est des vélos. Après, il y a des vélos de 75 000, il y a 40 000.
75 000, c'est l'équivalent de 115 euros.
Voilà, 115 euros.
40 000, 60
euros. Il y a 40 000 francs, mais c'est un vélo pas du tout normal. Il faut régler, on peut faire quelques réglages.
Ce sont des vélos d'occasion.
C'est des vélos d'occasion, quoi. C'est important.
Olivier Schneider, quel est le coût moyen d'un vélo en France ?
Alors en France, il se vend environ 3 millions de vélos par an, dont 2 millions de vélos adultes. Et le prix moyen en France est bas au niveau européen, c'est environ 300 euros, alors qu'en Allemagne, c'est plutôt 500 et aux Pays-Bas, 700 ou 800. Mais évidemment, beaucoup de gens peuvent accéder au vélo via de l'occasion, justement, et notamment les associations du réseau de la Fédération des usagers de la bicyclette organisent des bourses au vélo. Et dès 50 euros, on peut avoir un vélo qui permet de se déplacer simplement. C'est vrai que le vélo est quelque part une des plus grandes inventions de tous les temps. Imaginez, avec un objet qui fait à peine 10 kilos, vous pouvez aller 4-5 fois plus vite, donc couvrir dans le même temps une aire 16 à 25 fois plus grande. Et comme il était dit plus tôt, c'est quelque chose qui peut durer infiniment dans le temps. Il y a des vélos qui ont 100 ans, qui continuent à rouler. Donc
il suffit de l'entretenir.
C'est vraiment extraordinaire, oui.
Frédéric Linger, en France, le vélo a longtemps été vu comme le moyen de transport du pauvre aussi.
Oui, c'est vrai. Maintenant, c'est plutôt peut-être le moyen de transport des jeunes cadres dynamiques, des bobos parisiens. C'est un petit peu l'image qui commence à coller au vélo en France. Pourtant, on voit que la pratique est beaucoup plus large que ça. Il y a aussi des artisans, par exemple, qui se mettent à pédaler pour réaliser leur métier. On voit des boulangers qui livrent...
Le vélo pour vivre, encore une fois, on y revient. Pour gagner sa vie.
Pour gagner sa vie, pour transporter, pour déménager, pour intervenir lorsque les plombiers interviennent, par exemple. Ils trouvent très pratique de se déplacer en vélo. Donc, c'est des vélos assez particuliers avec des plateformes et qui permettent de transporter des charges de 50 à 100 kilos. Ça reste des vélos particuliers, mais il y a un vélo pour chaque usage.
Le vélo, véhicule de demain. Frédéric Linger, Olivier Schneider, Yoro Diallo, vous restez avec nous. On vous retrouve juste après le flash d'info sur RFI. Les voisins, les voisines, vous continuez de nous appeler au 33 1 84 22 71 71. À tout de suite.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
7 milliards de voisins, bienvenue si vous nous rejoignez. Nous parlons du vélo aujourd'hui, du vélo qui arrive en ville ou qui plutôt fait son grand retour. Les voitures doivent désormais compter avec les bicyclettes et s'y habituer dans certaines zones urbaines où l'on respire mal et où les embouteillages nous font perdre des heures de vie et puis gagner du stress. Le vélo, lui, permet de se déplacer à moindre coût, de moins polluer, de réduire le niveau sonore et même d'amener le cinéma dans les campagnes. Pourquoi le vélo semble-t-il être devenu indispensable ? Demain, serons-nous tous en train de pédaler ? Avec nous pour en parler, Olivier Schneider, président de la Fédération des usagers de la bicyclette en France, Frédéric Linger, consultant en transition des territoires et également Yoro Diallo, journaliste, membre de l'association Cinécyclo Sénégal. Vous avez participé à un tour du Sénégal à vélo pour projeter des films et promouvoir notamment des initiatives positives pour l'environnement ou l'éducation. Les voisins, les voisines, vous nous appelez pour témoigner, nous parler de votre vélo si vous en avez un. Et sinon, pourquoi un numéro ? Pour cela, le 33 1 84 22 71 71 33 1 84 22 71 71. Alors depuis 2015, Frédéric Linger, la ville de Paris met en application un plan vélo avec pour but d'arriver à 15% des trajets dans la capitale qui seraient effectués à vélo d'ici à 2020. La capitale a ouvert sa première voie express sur près de 4 km. De nouveaux Vélib, ce sont des vélos en libre service, vont être mis en place dès janvier prochain. Bref, Paris semble s'être mise au vélo.
Paris se met au vélo, effectivement. On en parle beaucoup. Les chiffres restent malgré tout assez modestes. La part modale du vélo à Paris est de 4,2%, si j'ai bonne mémoire. Donc assez loin de villes comme Strasbourg, qui sont à 16%, ou Grenoble à 15%. Malgré tout, la ville met en place beaucoup de choses, effectivement. Le premier renouvellement du contrat Vélib. Donc Vélib a déjà 10 ans. On n'imagine même pas comment était Paris avant les Vélib.
Moi, Vélib, ce sont des vélos en libre service.
Ce sont les vélos en libre service. Payant pour une somme modique, c'était de l'ordre de 30 euros par an. Par contre, le Vélib a permis de rendre le vélo visible et de structurer une offre autour de ce mode de déplacement. Vélib a vraiment joué, je pense, un grand rôle dans la conversion des Parisiens et des touristes et des provinciaux qui viennent à Paris dans le développement de ce mode de transport.
Mais malgré tout, la question du partage de la route peut être source de conflits et les cyclistes sont parfois très mal vus par les automobilistes.
Ils ne respectent souvent pas le code de la route, ils brûlent les feux rouges, ils se croient un peu tout permis.
Ils mettent pas leurs bras, ils font pas toujours attention non plus.
C'est un peu dangereux à partir du moment où ils sortent des voies de bus, et puis surtout quand ils sont en sens inverse sur les nouvelles voies.
Griller un feu rouge, rouler sur les trottoirs ou doubler par la droite, les cyclistes s'affranchiraient souvent du code de la route. D'ailleurs, dans un récent sondage, 88% d'entre eux concèdent ne pas le respecter.
Les principales infractions commises par les cyclistes dans Paris intramuros, essentiellement le franchissement de feux rouges, le téléphone portable, la vitesse excessive et l'utilisation de voies non dédiées aux cyclistes, notamment des trottoirs.
Extrait de l'émission La Quotidienne sur la chaîne de télévision française France 5. Comment vous réagissez, Olivier Schneider ? C'est vrai que certains accusent les cyclistes d'être dangereux, d'être les nouveaux chauffards des villes.
Il faut savoir garder les proportions. C'est-à-dire que alors en effet, il y a des cyclistes par exemple sur les trottoirs. S'ils sont sur les trottoirs, il faut se poser la question pourquoi ils ne se sentent pas suffisamment en sécurité là où ils devraient être d'après le code de la route. Parce que personne ne va sur le trottoir par plaisir d'être sur le trottoir et pour terroriser les piétons. C'est uniquement parce qu'ils ont subi des comportements irrespectueux, notamment quand on double en ne laissant pas la distance latérale de sécurité, etc., ou tout simplement que c'est un raccourci parce qu'il faut faire un énorme détour, ce qu'on ne concède pas à faire avec un mode qui est musculaire, où c'est notre énergie à nous. C'est pas comme en voiture où il suffit d'appuyer
au pédale. Par contre, on n'est pas obligé de griller les feux.
Alors déjà, premièrement, le mot griller les feux, c'est assez intéressant parce qu'il y a le code de la route a évolué depuis une dizaine d'années. Quelqu'un a parlé des doubles sens cyclables en parlant des vélos qui sont en sens interdit. Et aussi, j'entends souvent parler de griller les feux. En fait, il y a une signalisation, un panneau spécifique qui est tout petit au niveau des feux, qui autorise de considérer le feu comme un céder le passage. Ça ne veut pas dire qu'on a priorité, ça ne veut pas dire qu'il faut le griller stupidement. Par contre, c'est une autorisation conditionnelle de franchissement. Et bien souvent, et il y a un film fait par le ministère des Transports français qui explique pourquoi, c'est beaucoup plus sécurisant de passer au moment où le feu est au rouge, notamment pour des manœuvres de tourne à droite ou même de tourne à gauche. Et donc, mais tout ça, ce sont des remarques de gens qui eux-mêmes ne font pas du vélo. Le plus simple, c'est d'essayer. Par exemple, les doubles sens cyclables dans une rue étroite, il vaut mieux être à contresens de la circulation parce qu'on a le contact visuel avec les automobilistes qui arrivent en face que dans le sens commun où on a dans notre dos des automobilistes qui essaient de nous doubler mais avec qui on ne sait pas à quel moment ils vont tenter une manœuvre de doublement, etc. Le vélo, en soi, c'est déjà contre-intuitif. Le fait que deux roues, l'une derrière l'autre, à partir d'une certaine vitesse, ça reste stable, c'est totalement contre-intuitif. Et plein d'autres phénomènes, comme le fait de passer au rouge ou comme les doubles sens cyclables, sont contre-intuitifs. Mais en fait, une fois qu'on s'y met, bah, ça ne s'oublie pas et on comprend très vite.
On en vient à une question essentielle, Frédéric Linger, c'est celle du danger à vélo. Le vélo n'est pas sans danger.
Alors effectivement,
en tout cas, la perception qu'on en a.
Le vélo n'est pas sans danger, mais comme tout acte de la vie quotidienne, je dirais, il peut y avoir du danger partout. Mais sur le vélo en particulier, il ne faut pas confondre le danger, c'est-à-dire l'accident, et la perception du danger, c'est-à-dire le fait d'être frôlé, le fait d'être dans un environnement où effectivement on n'a pas de carrosserie, vu qu'à vélo, on a 10 kilos sous les fesses et on est en prise directe avec tout l'environnement. Donc les statistiques sont plutôt rassurantes au niveau des accidents qui concernent les vélos. Il faut savoir aussi que les statistiques qui indiquent beaucoup d'accidents sur les deux roues n'ont longtemps pas fait la distinction entre les deux roues motorisées, moto et scooter, et les vélos.
Alors qu'il y a beaucoup plus d'accidents à moto.
Évidemment, il y a beaucoup, beaucoup plus d'accidents à moto. C'est un tiers à peu près des décès en France sur la route, les motos. Les vélos représentent moins de 5%. Donc on n'est pas du tout sur les mêmes échelles de grandeur. Après, effectivement, avec le petit montage que vous avez réalisé avant, on voit que certaines catégories d'usagers de la route se plaignent du comportement des cyclistes. C'est vrai, les cyclistes enfreignent certaines règles, ça arrive, mais les piétons aussi, les automobilistes aussi. Il ne faut pas stigmatiser les cyclistes plus que d'autres.
Les cyclistes pourraient donner l'exemple.
Ce qui est important, c'est de voir quel est l'impact du non-respect de certaines règles. Quand vous êtes en voiture, que vous roulez trop vite, que vous roulez sous l'emprise de stupéfiants ou d'alcool, que vous êtes sur votre téléphone portable.
Vous êtes beaucoup plus dangereux.
Vous avez mis en mouvement 1,5 tonne d'acier que vous dirigez vers des piétons, vers des cyclistes. Non. Donc il faut quand même se poser la question des règles à respecter et de l'impact du non-respect de ces règles.
Yoro Diallo, au Sénégal, quelle forme prend ce danger? Comment vous, par exemple, vous percevez les risques depuis votre selle?
Par exemple, moi, à Dakar, c'est Vincent qui m'a...
Vincent Orion, le fondateur de Cinecyclo.
Voilà, fondateur de Cinecyclo, qui m'a poussé à pédaler dans Dakar, quoi. Parce qu'il y avait tellement de circulation. Au départ, j'ai eu peur. Après, il m'a dit non, il faut foncer parce qu'ils sont vigilants, voilà. Donc, du coup...
Aviez peur avant?
Voilà, au départ, j'avais eu peur parce qu'il y a tellement de mouvements des véhicules, le code de la route n'est pas aussi respecté, malgré qu'il y a eu des... Il y a eu des améliorations, il y a beaucoup de choses qui ont été faites et en train d'être faites. Après, quand j'ai pédalé, et voilà, maintenant j'ai eu le courage de pédaler au niveau de Dakar. Mais nous, les accidents, par exemple, dans ma région, on concentre plutôt les motos. Les motos font plus d'accidents avec les véhicules. Parce que les gens roulent n'importe comment. Personne ne respecte le code de la route. Souvent, c'est les accidents de moto. Du coup, les vélos sont moins... Malgré, il y a beaucoup de vélos, mais ils sont moins accidentés. Parce qu'ils roulent juste à leur côté, ils respectent leur code de la route. S'ils voient un véhicule, ils descendent complètement de la route, ils laissent dans l'espace de 10 secondes ou une minute, vous voyez un affrontement.
Voilà. Justement, à ce sujet, on a le message sur Facebook de Mahamat Njamena qui nous écrit « Au Tchad, les jeunes conduisent des motos, ils organisent même des courses de motos dans les villes qui peuvent provoquer des accidents. Ça m'inquiète pour ceux qui font du vélo, leur vie est en danger. » Donc effectivement, on a un vrai sentiment de danger pour les cyclistes. Nous sommes en ligne avec un voisin, justement, Njamena, Youssouf. Yaya, bonjour.
Bonjour, Charlie.
On vous écoute.
Bonjour à vos invités. Comme j'ai dit au régie, je vous ai raconté une expérience.
Allez-y.
Que j'ai vécu personnellement à propos du vélo.
Vous avez pratiqué le vélo en Suède.
Une année, j'étais étudiant en Suède, dans une ville qui s'appelle Uppsala. Et là, quand j'étais parti là-bas, j'étais vraiment surpris par l'utilisation fréquente du vélo par tous les étudiants.
En Suède, c'est très répandu.
Et du coup, moi aussi, j'ai osé utiliser ça et j'ai vraiment aimé.
Actuellement, je suis retourné chez moi en Djamena.
Et vous
je voulais
le vélo
pratiquer le vélo, mais les conditions climatiques et les conditions des états de route ne permettent pas.
Vous ne vous sentez pas en sécurité à vélo?
Oui.
Pourquoi?
Et du coup, parce que déjà, c'est difficilement praticable. Donc, sauf si on n'a pas les choix, si on n'a pas les moyens d'utiliser un autre moyen de déplacement, donc on opte pour le vélo, mais ce n'est pas une option qui est écologique ou bien qui est liée à la structure de la ville.
Merci Youssouf pour ce témoignage. J'en profite aussi pour vous lire le message de Linda. Alors on ne sait pas d'où elle nous écrit sur Facebook. C'est bien plus facile de prendre un vélo sur des routes goudronnées et avec un climat tempéré. Mais quand tu dois pédaler sous un soleil de plomb et sur une route poussiéreuse, c'est plus par obligation que pour l'environnement ou par plaisir. Alors Frédéric Linger, vous aussi, vous avez dû pédaler, j'imagine, sous des conditions difficiles en termes de climat.
Oui, effectivement, la qualité des routes, c'est un sujet, même pour les cyclistes. Un chemin de terre, une route empierrée ou un joli goudron prévu pour les voitures, ça fait aussi une grosse différence pour les cyclistes. Après, les intempéries, effectivement, c'est aussi un sujet qui concerne les cyclistes. Hein. J'ai toujours coutume de dire qu'en vélo, il n'y a pas de mauvais temps, il n'y a que des mauvais vêtements.
Donc, il faut avoir les moyens de s'équiper aussi.
Voilà, quand on est cycliste au quotidien, l'investissement souvent dans des bons vêtements de protection contre la pluie, le soleil, le vent, que sais-je, sont les meilleurs alliés du cycliste.
Olivier Schneider, on parle de sécurité. Comment éviter les accidents quand on se déplace à vélo? Qu'est-ce qu'il faut savoir absolument?
C'est vrai qu'on a parlé de respecter le code de la route. Le respect du code de la route à la lettre ne suffit absolument pas à être en sécurité. C'est aussi ça qu'il faut comprendre. Pareil quand on est piéton. C'est juste regarder par exemple les feux et traverser que au vert et attendre au rouge. C'est bien, ça évite d'avoir une amende, mais c'est pas ça qui nous met en sécurité. Et donc, le réseau FUB lance ce qu'on appelle des vélo-écoles pour remettre les gens en selle. Parce que justement, souvent, les gens ont l'équilibre à vélo, ils ont plus ou moins la maîtrise du vélo, mais ils ne savent pas comment se déplacer en ville en toute sécurité. Alors, c'est tout un cours d'une dizaine ou quinzaine d'heures, un peu comme les auto-écoles. Mais par exemple, il ne faut pas être trop près du bord droit. Notamment, il ne faut pas raser les voitures en stationnement, parce qu'à tout moment, il peut y avoir quelqu'un qui ouvre la porte pour quitter le véhicule, et c'est là qu'on se prend la portière. On a respecté le code de la route,
tout ça, ça
mais on s'est
en
mis
fait.
En danger. Tout ça, c'est des choses très simples, mais ça ne se devine pas, c'est pas intuitif. Et c'est pour ça qu'on préconise que tous les enfants apprennent à faire du vélo dans des vraies conditions de circulation avant la fin de l'école primaire.
Alors on a aussi Cal Niaba qui nous écrit depuis Bujumbura au Burundi pour nous dire « J'aimerais faire du vélo mais je ne sais pas pédaler ». Alors Olivier Schneider, qu'est-ce qu'on peut lui répondre? Comment faire avec ceux qui n'ont pas eu la chance d'apprendre à pratiquer le vélo en étant enfant?
Alors dans le public des vélo-écoles françaises, ce sont souvent des personnes nées à l'étranger ou de parents nés à l'étranger, et souvent des femmes, justement, à qui on donne cette liberté, avec ce bout de métal de 10 kilos, avec quelques pneus, de se déplacer. Et donc, j'espère qu'il va y avoir de plus en plus de vélo-écoles, pas seulement en France, mais partout, y compris sur le continent africain, parce que c'est vraiment une énorme liberté qu'on gagne. Alors, évidemment, c'est plus commode sur du bitume, mais quand même, sur une rue, une voie difficilement praticable, c'est quand même plus confortable d'être à vélo qu'à pied, parce que ça permet quand même d'aller plus vite, et à pied aussi, on est incommodé aussi.
Les voisins, les voisines, vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. Quant à nous, on continue de s'essayer au vélo, de se mettre en selle, hein, puisque c'est à la fois le transport d'hier et de demain. On se retrouve dans un instant après, à vélo, de Billy the Kick.
Piéton.
Ce que je demande n'est pas difficile. Il me faut deux roues, un cadre et quelqu'un, un rayon qui tourne. Yeah.
Frédéric Linger, comme 2% des Français actifs, vous vous rendez sur votre lieu de travail à vélo. Alors pourquoi et sur quelle distance ?
Donc je parcours à peu près 13 km chaque jour. Donc j'habite Porte d'Italie à Paris, je vais à Bastille. Pourquoi ? Bah parce que c'est le plus rapide. C'est un moyen de transport extrêmement agréable, même à Paris. On a maintenant quand même beaucoup d'infrastructures qui permettent d'avoir des trajets confortables et sécurisés. C'est le moyen de transport le plus flexible, le moins coûteux, le plus rapide. C'est pas du tout par choix philosophique, c'est vraiment un outil qui permet d'économiser son temps et puis de le valoriser ailleurs. Et puis effectivement, c'est aussi lorsqu'on a une journée de travail derrière un écran d'ordinateur, assis derrière un bureau, ça permet aussi de faire à peu près une heure d'exercice physique, pas de sport, mais d'exercice physique, et ce qui permet de s'éloigner du spectre de la sédentarité qui nous guette tous et donc des maladies qui y sont associées.
Est-ce que vous portez le casque à vélo ? C'est un des débats. Alors, il est recommandé en France, pas obligatoire ?
Alors, il est obligatoire pour les enfants de moins de 12 ans. Il est recommandé, effectivement, pour les adultes. Alors, ma réponse est non, moi, je ne porte pas le casque. Je pense que le casque est une bonne chose dans la mesure où il reste un outil qui est choisi ou pas par les personnes qui font du vélo. En aucun cas, à mon sens, il doit devenir obligatoire parce qu'on a eu des exemples, notamment en Australie, où le fait de rendre le casque obligatoire a diminué le nombre de cyclistes. Il faut savoir que le premier facteur de sécurité des cyclistes en ville, c'est les autres cyclistes. Plus il y a de cyclistes, on constitue ce qu'on appelle une sorte de masse critique, on est beaucoup plus visible et donc on se protège les uns les autres. Le jour où on met en place le casque obligatoire, on va perdre des cyclistes parce que les personnes vont refuser de porter un casque. Et puis, on va du coup mettre en danger les autres qui circuleront. Donc le casque, oui, c'est bien quand on tombe parce que ça réduit les blessures. Mais attention, du coup, on va être contraint de tomber plus souvent. Et ça, c'est dommage.
Yoro Diallo, vous portez le casque quand vous êtes à vélo ?
Non. Moi, je ne porte pas de casque, mais toujours, je suis vigilant sur la route quand je pédale. Je regarde de gauche à droite, il faut rester vigilant et rester concentré sur son vélo, parce que vous savez qu'il y a beaucoup de circulation. Donc, surtout nous, c'est des pistes caillouteaux, le vélo peut glisser comme le guidon de gauche à droite, vous pouvez tomber à n'importe quel moment. Mais il faut rester vigilant et concentré, comme vous conduisez un véhicule. Donc, il faut être concentré, voilà.
En tout cas, on n'encourage pas les cyclistes forcément à ne pas porter le casque, Frédéric Linger.
Oui, effectivement, le cycliste est dans un état de vigilance qui, à mon avis, est celui d'un peu de la gazelle au milieu de la savane. C'est-à-dire qu'on est perpétuellement en train de scanner à gauche, à droite, l'ensemble des dangers qui peuvent se mettre au milieu de notre route. Ça peut être un trou dans la chaussée, ça peut être un piéton qui est en train de passer entre deux voitures, ça peut être un automobiliste qui va ouvrir sa portière, ça peut être un camion qui va tourner. On est dans un état de vigilance perpétuelle.
Il ne faut pas écouter de musique.
Et il ne faut surtout pas écouter de musique. Louis est, à mon avis, le premier des sens qu'utilise le cycliste. Et donc, effectivement, rien qui doit obstruer le son.
Olivier Schneider, on est encore assez en retard en France par rapport à l'usage du vélo. À Copenhague, la capitale du Danemark, le nombre de bicyclettes a dépassé celui des voitures fin 2016. La ville compte plus de 265 000 vélos contre 252 000 voitures. On est en retard par rapport à ça.
Ça ne se limite pas au nombre de bicyclettes, hein, parce que par exemple à Paris, les deux tiers des Parisiens ne possèdent pas de voiture, donc ils prennent le métro. Donc mais globalement, c'est vrai que le problème, c'est la crédibilité qu'on accorde au vélo. C'est-à-dire que quand on aborde, et je le fais très souvent, le vélo dans des réunions générales, publiques, sur les transports ou sur la solidarité ou sur l'énergie ou sur quoi que ce soit, ça provoque en France tout simplement un ricanement. C'est quelque chose qui n'est pas pris au sérieux, alors que dans d'autres pays, et pas seulement aux Pays-Bas et au Danemark, aussi en Allemagne, mais aussi en Suisse, aussi dans le nord de l'Italie ou en Espagne, c'est pris au sérieux. Et c'est ça, finalement, plutôt que de dire il faut faire telle chose ou telle chose, il faut commencer par prendre le vélo au sérieux, se rendre compte que plus de la moitié des déplacements en voiture font moins de 5 km, pourrait très bien se faire au moins en grande partie à vélo, et qu'en plus, ça restructurerait nos déplacements, donc il faut simplement y croire.
Frédéric Linger, vous êtes aussi un consultant, hein, en plus d'être un passionné de vélo, et vous travaillez sur la promotion d'alternatives à la voiture, donc comme le vélo bien sûr, mais il en existe aussi plein d'autres. Quel dialogue vous menez avec les autorités ? Est-ce que vous avez le sentiment que les autorités sont réceptives sur ce sujet-là du vélo ?
Elles le deviennent, effectivement, elles le deviennent. Le cadre législatif évolue, les collectivités locales investissent massivement. On peut le dire quand même dans les infrastructures cyclables. On le voit actuellement à Paris, il y a beaucoup de débats autour de la mise en place d'un programme vélo qui a été voté par l'actuelle majorité il y a 2 ans. C'est aussi une expertise qui est à construire chez les ingénieurs de voirie qui mettent en place ces infrastructures cyclables pour qu'elles répondent réellement aux besoins des cyclistes. Le vrai problème que l'on rencontre sur beaucoup de territoires, c'est que les personnes qui mettent en place des infrastructures cyclables ne sont pas cyclistes et donc ne font pas des infrastructures qui répondent aux besoins des cyclistes. Et ça, c'est un vrai sujet.
Olivier Schneider.
En fait, ce qui est compliqué avec le vélo, c'est que il faut construire un système vélo, comme il y a un système automobile avec des garagistes, avec des pompes à essence, avec des autoroutes, etc.
Et un réseau uniforme aussi de pistes cyclables.
En fait, le vélo, c'est plein de toutes petites choses à faire pour que ça marche. Et s'il manque une seule chose, c'est un peu comme si vous montez un moteur, il manque une seule pièce, et ben ça marche pas du tout. Et donc, on en est un peu là en France. C'est pour ça qu'il y a encore énormément de potentiel, mais je pense que dès qu'on aura toutes les conditions réunies, et ça viendra bien un jour, là, l'usage va, permettez-moi, exploser, littéralement, du jour au lendemain.
Yoro Diallo, en quoi parcourir le Sénégal avec Cinécyclo pour projeter des films? C'est aussi un moyen de promouvoir ce moyen de transport.
Oui, c'est au moins aussi de
vous montrer à vélo.
Voilà. Ça veut dire, on montre aux populations, donc le vélo, que le véhicule ou l'avion a parcouru le monde, le vélo peut le faire. Donc il suffit d'y oser, y croire. Donc nous, on montre aux gens que le vélo est un moyen de transport comme tous les autres qui existent. Hein. Donc c'est ça qu'on montre aux populations. Le vélo est là, il est utile. Et prenez comme modèle. Bon, certes, les gens conduisaient en vélo depuis des années, mais on montre davantage la promotion du vélo, d'où son importance. Donc il peut faire de l'énergie par vous-même. Et vous pouvez faire beaucoup de choses sur le vélo, comme le travail, pour beaucoup d'activités. Donc le vélo peut aussi amener le cinéma. Donc il y a des gens qui étaient là, voilà, ils ont dit, là Vincent, tu as raison, hein, là tu as raison. Ça c'est à nous qui devrait faire à ta place. C'est
mais pas on a encore peu de vélos à Dakar. Vous-même vous disiez que vous étiez réticent à
pédaler. Oui, moi j'étais réticent au niveau de Dakar. Bon, maintenant il y a de plus en plus de vélos à Dakar. Bon, ça vient petit à petit, mais ils sont plus nombreux quand même. Dans le monde rural, quoi. Ils sont plus nombreux dans le sud, voilà. Ou bien, parce que tout au nord, on a les par exemple, on se déplace en cheval avec les charrettes, tout ça. C'est parce que c'est sablonneux aussi. Parce qu'il y a beaucoup de sable tout au nord. Donc, se déplacer en charrette, je pense que c'est plus adéquat. Mais n'empêche, il y a d'autres qui ont des vélos. On a rencontré des gens qui travaillent avec des vélos
dans le
nord du Sénégal, dans leur jardin potager, etc.
Quels sont vos projets avec Cinécyclo? Est-ce que vous allez refaire un tour du Sénégal, mettre en place des ciné-clubs dans certaines villes?
Oui, après, à la suite du CTS, le Cinécyclo Tour du Sénégal, on a envisagé de créer Cinécyclo Sénégal et un ciné-club dans la région de Kédougou. C'est pour répondre aux sollicitations des associations locales qui se trouvent dans ces endroits isolés. Donc, pour le moment, il y a un micro-projet qui s'est mis en place à Dakar. Et pour continuer, dans l'équipe technique, qu'il y aura une équipe technique qui va produire des générateurs. Et il y a l'équipe de solidarité qui va continuer à projeter dans les régions. N'oubliez pas que dans chaque région, on a déjà un représentant de Cinécyclo qui est prêt à qu'on lui outille un kit de projection.
Donc des vélos.
Des vélos équipés en projecteurs et de génératrices en tout, pour quand même continuer à nous ce qu'on a déjà initié. Maintenant, nous, Sénégal aussi, c'est dans le futur, c'est que Sénégal puisse être un point focal pour couvrir toute la région. Par exemple, Cinécyclo Sénégal peut aller au Burkina, travailler avec des associations qui ouvrent sur le vélo. Essentiel, faire une essence interculturelle ou de technique en développement local. Bon, c'est des projets, nous, qu'on mise dans le futur aussi.
Et alors, on arrive à la fin de cette émission. Pardonnez-moi de vous couper dans tous les projets de Cinécyclo, mais Frédéric Linger, j'aimerais vous donner la parole dans les quelques dizaines de secondes qui nous restent. Quel avenir vous envisagez-vous pour le vélo? Alors, dans les pays que vous avez traversés, on a dit du Sud-Est, on a parlé un peu de la France. Les vélos vont-ils être de plus en plus nombreux dans les villes ?
Ah, les vélos sont porteurs d'un élan révolutionnaire, hein, vous le disiez en introduction. Et puis effectivement, dans beaucoup de territoires, je pense que des initiatives du type de Cinécyclo vont aussi se décliner comme production d'énergie décentralisée locale. C'est extrêmement intéressant parce qu'on peut alimenter une génératrice pour faire du cinéma, mais aussi pour charger des téléphones portables et pour alimenter toute une série d'appareils électriques.
Le vélo comme générateur d'électricité, décidément, on n'arrête pas la révolution du vélo. Merci à vous Frédéric Linger, Olivier Schneider, Yoro Diallo. Merci à toute l'équipe de 7 milliards de voisins, Sophie Janin, Cécile Lavolo, Baptiste Madinier et puis Raphaël Lazizi. Et merci à vous, bien sûr, les voisins et les voisines. Demain, dans 7 milliards de voisins, loin des idées reçues, quelle place pour les femmes en Égypte, dans l'Égypte de l'après-révolution, quels droits et quels combats restent-ils à mener ? À demain les voisins.